Je pense que nous allons pouvoir commencer. J'ai le plaisir considérable d'accueillir Pierre Jacob. J'ai dit le plaisir considérable, d'abord parce que c'est un très vieil ami, ensuite à cause de la qualité des travaux qui ont fait sa réputation. Alors, comme il est sans doute suffisamment connu de la plupart d'entre vous, je ne vais pas me donner la peine de le présenter réellement. Je rappellerai simplement qu'il est directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut Jean Nicot, et qu'il est connu entre autres choses, pour des travaux dont certains sont véritablement des travaux de référence sur la psychologie cognitive et les sciences cognitives. Alors, il a choisi de traiter un sujet qu'il a intitulé « Le naturalisme méthodologique et le naturalisme métaphysique », c'est bien ça ?
C'est ça.
Et je lui laisse le soin de vous expliquer de quoi il va s'agir exactement. Pierre, tu as la parole.
Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier et Jacques Bouvresse et Jean-Jacques Rosa. C'est vrai que j'aurais pu probablement passer l'heure à vous expliquer dans quelles circonstances j'ai rencontré Jacques Bouvresse il y a plus de 30 ans, mais je pense que je vais en fait me consacrer à la distinction entre le naturalisme méthodologique et le naturalisme métaphysique. Il y a 50 ans, en élaborant les principes théoriques de la grammaire générative, Noam Chomsky a jeté les bases de l'étude scientifique de la faculté humaine de langage. En un mot, le but de la grammaire générative est de fournir une caractérisation finie, explicite et testable ou réfutable, des propriétés computationnelles récursives de la faculté humaine de langage, grâce auxquelles un ensemble fini d'items lexicaux appartenant au vocabulaire d'une langue humaine peut engendrer un ensemble illimité de phrases grammaticales de cette langue. En démontrant l'inadéquation des explications behavioristes du comportement verbal humain, Chomsky a de surcroît donné une impulsion fondamentale à ce qu'il est convenu d'appeler la révolution cognitive, ou comme l'a appelé le psychologue George Miller, la contre-révolution cognitive, contre-révolution par rapport à la révolution behavioriste, contre-révolution cognitive donc, qui a elle-même donné naissance aux sciences cognitives. Chomsky est l'un des principaux architectes d'une approche computationnelle de l'esprit et du langage humain, et peu nombreux sont les philosophes analytiques de l'esprit et du langage contemporain qui, je crois, nieraient que l'œuvre de Chomsky a profondément modifié et enrichi notre compréhension scientifique de la faculté humaine de langage. Mais au cours des 40 dernières années, le cadre scientifique qu'il a contribué à créer pour étudier la faculté humaine de langage n'en a pas moins été régulièrement soumis à la critique des philosophes de l'esprit et du langage. En réponse à ces critiques, Chomsky a offert une distinction entre deux thèses naturalistes, le naturalisme méthodologique auquel il souscrit et le naturalisme métaphysique qu'il répudie. Dans mon exposé, je me propose d'aborder une question soulevée par le fait que le philosophe Jerry Fodor, son ancien collègue à MIT, a lui-même développé une conception conjointement computationnelle et représentationnelle de l'esprit humain qui paraît offrir un cadre taillé sur mesure pour servir de base métaphysique au modèle computationnel de la faculté humaine de langage développé par Chomsky et les linguistes de la tradition générativiste. Or, Chomsky s'abstient d'embrasser cette doctrine. La question que je veux aborder est de savoir pourquoi. La réponse courte à cette question est que cette doctrine est une version du naturalisme métaphysique que répudie Chomsky, et mon exposé est une version plus longue de cette réponse, et comme vous le verrez, cette réponse prendra 4 temps. Mais ces 4 temps sont présents sur la feuille que je vous ai distribuée, mais au préalable, et ce sera la première section de l'exposé, je commencerai par caractériser succinctement la démarche scientifique de Chomsky et ce qu'il nomme le naturalisme méthodologique. Souscrire au naturalisme méthodologique en linguistique ou en sciences cognitives, c'est s'engager à appliquer les méthodes ou les outils empiriques de la démarche scientifique pour étudier les phénomènes linguistiques ou mentaux. Toute investigation scientifique du monde a vocation à s'écarter du sens commun et repose sur l'adoption de ce que Chomsky, citant le physicien théoricien Steve Weinberg, qui cite lui-même Husserl, a nommé le style galiléen, c'est-à-dire la construction de modèles mathématiques abstraits, je cite, de l'univers, modèles mathématiques abstraits de l'univers, auxquels les physiciens confèrent un degré de réalité supérieur à celui qu'ils accordent au monde de leurs sensations. Fin de citation. Quel que soit l'aspect du monde concerné, le but de la démarche scientifique est une compréhension théorique et objective du monde, c'est-à-dire maximalement détachée des préoccupations et des intérêts humains ordinaires. Parce qu'elle repose sur des idéalisations sévères, la compréhension théorique du monde ne peut être que étroite et profonde. Étroite parce que l'idée d'une compréhension théorique objective simultanée de tous les aspects du monde est elle-même dénuée de sens. Profonde parce que la compréhension théorique objective du monde consiste à découvrir des principes abstraits incarnés par exemple par les lois physiques fondamentales inaccessibles aux seules ressources de l'observation et du sens commun. Le naturalisme méthodologique s'oppose donc au dualisme méthodologique selon lequel le langage et l'esprit humain ne se prêtent pas à la même compréhension théorique objective et scientifique que les autres aspects du monde physique, chimique et biologique. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun philosophe de la physique et de la biologie d'assujettir les théories scientifiques de la physique ou de la biologie à des analyses conceptuelles fondées sur l'autorité épistémique des concepts du sens commun comme ceux de matière et mouvement ou de vie et légumes. Par parité, le naturalisme méthodologique affirme que l'investigation scientifique du langage et de l'esprit humain ne devrait pas être assujetti à des analyses conceptuelles fondées sur l'autorité épistémique des concepts du sens commun comme les concepts de langage, savoir ou conscience. La compréhension théorique du monde n'est pas la seule compréhension accessible aux êtres humains. Le monde s'offre aussi à la compréhension artistique ou esthétique humaine. Comme l'écrit Chomsky, grâce aux arts, nous parvenons à une compréhension du ciel qui sort des limites auxquelles aspire l'astrophysique. Fin de citation. De surcroît, comme l'ont souligné les auteurs de la tradition herméneutique, tout être humain semble aussi capable de comprendre les actions d'autrui en première personne, en se mettant à la place d'autrui, mais si le but recherché est la compréhension théorique du monde, alors les idéalisations et la modélisation requises par l'investigation scientifique sont indispensables. J'aborde maintenant le premier des quatre points de désaccord entre Chomsky et Fodor que je nomme sur sur la feuille qui est distribuée, le représentationnalisme computationnel de Fodor. Le naturalisme métaphysique constitue une famille de programmes de recherche métaphysique sur la nature de l'esprit humain dont toutes les versions admettent la thèse ontologique du monisme physicaliste et la répudiation concomitante du dualisme cartésien entre les deux substances. À la fin du XIXe siècle, en introduisant le concept d'intentionnalité en philosophie, Franz Brentano a légué à ses successeurs une série d'énigmes logiques et ontologiques. Brentano soutenait que l'intentionnalité est la marque ou le critère des phénomènes mentaux ou psychologiques, et aussi il souscrivait au dualisme ontologique. Dans son livre très classique de 1960, Word and Object, le mot et la chose, le philosophe Quine a fait valoir qu'on ne peut pas conjointement admettre le monisme physicaliste et le réalisme intentionnel, c'est-à-dire croire à la réalité des phénomènes exemplifiant le faisceau de propriétés qui, selon Brentano, définit l'intentionnalité. C'est le fameux dilemme de Quine qui, contrairement à Brentano, opte conjointement pour le physicalisme et aussi pour les restrictions behavioristes sur ce qu'est une explication scientifique du comportement humain. À la suite de la révolution cognitive ou de la contre-révolution cognitive, et notamment à la suite des critiques dévastatrices adressées par Chomsky aux explications behavioristes du comportement verbal humain, certains partisans du monisme physicaliste, dont Fodor, qui rejette le behaviorisme, ont voulu rejeter le défi du dilemme de Quine, soit l'ontologie physicaliste, soit le réalisme intentionnel, mais pas les deux. Fodor, mais non Chomsky lui-même, a notamment conclu de la critique chomskienne du behaviorisme qu'une explication cognitive scientifique d'un comportement intentionnel ou volontaire humain ne peut pas se dispenser de recourir aux concepts fondamentaux de la psychologie du sens commun, c'est-à-dire les concepts de croyance, intention et désir. Pour montrer que le réalisme intentionnel est compatible avec une ontologie physicaliste, Fodor et d'autres se sont donné la tâche, comme ils le disent, de naturaliser l'intentionnalité. L'une des propositions destinées à réconcilier l'ontologie physicaliste avec le réalisme intentionnel n'est autre que ce que Fodor lui-même nomme la, en anglais, Computational Representational Theory of Mind, et que je nommerais, selon une expression barbare, le représentationnalisme computationnel. Le représentationnalisme computationnel repose sur cinq ingrédients. Premièrement, selon le computationnalisme, dont la paternité revient, selon Fodor, au logicien Alan Turing, les processus mentaux ou cognitifs sont des processus computationnels qui pourraient être exécutés par une machine de Turing ou par un automate. Si on admet de surcroît que tout processus computationnel consiste à manipuler et transformer des symboles, alors le computationnalisme implique l'hypothèse du langage de la pensée, c'est-à-dire que penser, raisonner ou effectuer une inférence, c'est manipuler et transformer des symboles mentaux dotés de propriétés syntaxiques et sémantiques. Deuxièmement, selon la conception représentationnelle de l'esprit, toute relation sémantique entre l'esprit ou des états mentaux psychologiques et des états de choses de l'environnement est médiatisée par l'existence de représentations mentales, c'est-à-dire des véhicules cérébraux, physiques, dotés de propriétés syntaxiques et sémantiques. Les propriétés sémantiques des symboles complexes dépendent, c'est de nouveau une formule du langage, de l'hypothèse du langage de la pensée, les propriétés sémantiques des symboles complexes dépendent des propriétés sémantiques de leurs constituants et des règles syntaxiques de combinaison. Troisième ingrédient de la conception, ce que j'appelle le représentationnalisme computationnel, Fodor suppose conjointement que les explications psychologiques scientifiques des comportements humains intentionnels sont des explications nomiques ou nomologiques, c'est-à-dire conformes à des lois psychologiques, et d'autre part, que les lois psychologiques elles-mêmes sont intentionnelles en ce sens qu'elles font référence au contenu des états psychologiques de l'agent, c'est-à-dire, selon l'hypothèse du langage de la pensée, au contenu des symboles mentaux de l'agent. Quatrième ingrédient, Fodor suppose que ce qui confère aux lois psychologiques intentionnelles leur caractère causal, c'est qu'elles sont, comme il le dit, implémentées par des mécanismes purement computationnels, non sémantiques sous-jacents. Et le cinquième ingrédient, qui s'est révélé de plus en plus récemment, et comme le montre notamment un de ses livres récents de 1998 intitulé « Concepts », les concepts, comme l'a d'ailleurs bien souligné récemment Damien Rousteau dans une récente thèse de doctorat, Fodor est de plus en plus enclin à admettre une conception sémantique de la computation, selon laquelle il est constitutif d'un processus computationnel de préserver les relations sémantiques entre les symboles mentaux. Comme le dit Fodor dans ce livre, les computations sont des relations causales entre symboles qui respectent les propriétés sémantiques de leur relata, ou encore, une computation, je le cite, est une relation causale qui respecte les relations sémantiques entre les symboles. Fin de citation. D'une part, en combinaison avec la conception sémantique de la computation, le représentationnalisme computationnel prépare le terrain à une réconciliation entre la psychologie naïve du sens commun et les modèles computationnels des sciences cognitives. D'autre part, il offre l'espoir de réconcilier le réalisme intentionnel avec le physicalisme. Les propriétés causales des états psychologiques intentionnels sont coordonnées avec leurs propriétés sémantiques grâce aux propriétés computationnelles ou syntaxiques des symboles mentaux du langage de la pensée. Les lois psychologiques peuvent donc être à la fois des lois causales et des lois intentionnelles. Pour les trois raisons suivantes, on aurait pu s'attendre à ce que Chomsky accepte le représentationnalisme computationnel. Première raison, Chomsky lui-même est le principal architecte de la modélisation computationnelle de l'une des capacités cognitives humaines fondamentales, à savoir la faculté humaine de langage. Deuxième raison, une computation est un processus qui s'applique à des représentations mentales. Troisièmement, une représentation mentale est une structure possédant un contenu ou l'intentionnalité. Mais en réalité, pour deux raisons conjointes, Chomsky n'épouse pas le représentationnalisme computationnel. D'une part, à la différence de Fodor, Chomsky n'est pas du tout séduit par la promesse d'une réconciliation entre la démarche scientifique des sciences cognitives et la psychologie naïve du sens commun. D'autre part, il n'admet pas la conception sémantique de la computation. Selon lui, la conception sémantique de la computation repose sur une conception relationnelle des représentations mentales, de la notion même de représentation mentale. Les philosophes qui souscrivent à cette conception relationnelle de ce qu'est une représentation mentale, ces philosophes sont sous l'emprise de la définition de l'intentionnalité héritée de Brentano et qui a elle-même engendré des perplexités conceptuelles, mais non scientifiques. selon Chomsky, il incombe à la modélisation computationnelle des mécanismes cognitifs, en général, de substituer à la conception relationnelle héritée de Brentano une conception non relationnelle, c'est-à-dire en fait une conception, disons, syntaxique. Juste un mot pour clarifier la portée de cette controverse entre Chomsky et les héritiers de Brentano, que sont les philosophes qui, comme Fodor et Dretsky, j'en suis moi-même ou j'en ai été, ambitionnent de naturaliser l'intentionnalité. Je dirais que c'est une chose de rendre le concept d'intentionnalité métaphysiquement respectable aux yeux d'un partisan du naturalisme métaphysique en montrant les relations conceptuelles entre ce concept d'intentionnalité et d'autres concepts employés dans les sciences de la nature comme ceux de loi, information et fonction, qui sont les lois, les concepts généralement tenus pour des concepts fondamentaux vis-à-vis desquels les partisans de la naturalisation de l'intentionnalité essayent de montrer ou de réduire l'intentionnalité. C'est autre chose, ça c'est une chose, disons, de montrer la respectabilité métaphysique du concept d'intentionnalité, c'est autre chose, à mon avis, de démontrer que le concept brentanien d'intentionnalité peut jouer un rôle opératoire dans la modélisation computationnelle des capacités cognitives humaines et a fortiori dans l'étude expérimentale de cette capacité. Le scepticisme de Chomsky porte manifestement sur la portée du concept d'intentionnalité dans un programme de recherche scientifique, expérimentale et de modélisation en sciences cognitives. Alors, j'aborde maintenant le troisième point de mon exposé, qui est le deuxième point de désaccord entre Chomsky et Fodor, et que j'appelle l'internalisme de Chomsky. Parce qu'il souscrit au réalisme intentionnel, c'est-à-dire à l'interprétation réaliste de la psychologie naïve, Fodor suppose que le contenu des croyances et des désirs d'un individu possède une efficacité dans l'explication psychologique de ses actions. Il admet conjointement que le contenu des croyances et des désirs d'un individu est bien déterminé, et deuxièmement, que ce contenu bien déterminé est causalement efficace dans la production du comportement de l'individu. Pour sa part, Chomsky ne fait pas grand cas de ce que j'appelle le réalisme intentionnel. Comme il l'écrit, et je le cite, « Il n'y a ni plus ni moins de raison de souscrire au réalisme intentionnel qu'au réalisme des chaises et des tables, au réalisme des sons du langage, au réalisme des chats ou au réalisme de la matière. Il n'est pas question, poursuit Chomsky, de nier l'existence des tables, des chaises et des autres entités mentionnées, mais le problème, c'est que les questions soulevées par le réalisme ne se posent sérieusement que dans le contexte d'une investigation systématique visant à découvrir les lois de la nature et que dans ce contexte, on n'applique pas aux objets les concepts du sens commun. » Fin de citation. La psychologie naïve ne se prête pas, selon Chomsky, aux controverses entre le réalisme scientifique et une interprétation antiréaliste, tout simplement puisque ça n'est pas une théorie scientifique explicite destinée à découvrir les lois de la nature, y compris les lois de la nature de l'esprit humain. Parmi les philosophes qui souscrivent au naturalisme métaphysique, nombreux sont ceux qui admettent ce que j'appellerais une conception externaliste du contenu sémantique, tant des expressions linguistiques que des états psychologiques sous-jacents. Selon l'externalisme sémantique, la signification d'une expression linguistique et le contenu mental de l'état psychologique sous-jacent sont des relations relationnelles ou extrinsèques du symbole ou de l'état psychologique. Chomsky rejette conjointement l'externalisme du contenu sémantique des symboles linguistiques et l'externalisme du contenu mental, mais pour des raisons différentes. J'ai parlé à la fin de la section précédente de sa conception internaliste des représentations mentales lorsque j'ai souligné le contraste entre ce que j'ai appelé la conception relationnelle des représentations mentales héritées de Brentano et la conception non relationnelle qui est celle que défend Chomsky et selon laquelle il incombe à la modélisation computationnelle en sciences cognitives de définir une notion opératoire de représentation à l'intérieur d'une théorie computationnelle. Je passe maintenant à la conception internaliste de la sémantique des symboles linguistiques que défend Chomsky. Chomsky soutient que la sémantique externaliste des symboles linguistiques, des expressions linguistiques, découle d'une tendance que lui critique et qui consiste à ériger la syntaxe et la sémantique vériconditionnelle des langages formels artificiels de la logique ou de la logique mathématique en modèle de la syntaxe et de la sémantique des langues naturelles. Dans un langage formel, doté d'une syntaxe arbitraire, conçu pour accomplir un projet scientifique ou mathématique déterminé, comme par exemple la Begriffsschrift de Frege, les symboles élémentaires reçoivent une référence ou une dénotation par stipulation. Les expressions complexes du langage formel reçoivent une valeur ou une condition de vérité qui est fonction des règles syntaxiques arbitraires de la syntaxe du langage et de la référence stipulée des constituants de l'expression complexe du langage formel. Mais dans les langues naturelles, soutient Chomsky, dont la syntaxe n'est pas arbitraire, on ne peut pas fixer par stipulation des relations sémantiques régulières entre des classes d'expressions linguistiques élémentaires, puis complexes, disons en fonction de la définition récursive des expressions complexes à partir de la sémantique des expressions complexes à partir de la valeur sémantique des expressions constituantes. On ne peut pas fixer par stipulation des relations sémantiques régulières entre des classes d'expressions linguistiques et des ensembles fixes d'entités non linguistiques qui servent de dénotation aux expressions linguistiques. Pour les besoins de l'investigation scientifique, Chomsky pense à la sémantique des expressions linguistiques des langues naturelles sur le modèle internaliste des représentations phonologiques de la structure acoustique des expressions linguistiques et non pas sur le modèle externaliste des relations entre symboles et entités extralinguistiques des langages formels artificiels. Dans le cadre de son approche minimaliste récente, Chomsky conçoit la syntaxe des langues naturelles comme l'interface entre deux systèmes cognitifs humains distincts. Le système sensorimoteur qui contrôle l'articulation et la perception des sons linguistiques et le système conceptuel intentionnel qui contrôle les inférences à partir de la forme logique des phrases énoncées. Autrement dit, la syntaxe engendre des représentations phonologiques et des formes logiques. Les premières, les représentations phonologiques, servent d'instruction au système sensorimoteur. Les secondes, les formes logiques, servent d'instruction au système conceptuel intentionnel. Soit, et là je reproduis juste un argument donné par Chomsky dans son livre récent 2000 qui s'appelle New Horizons in the Study of Language and Mind, soit M, grand M, une représentation mentale sous-jacente à l'usage du nom propre français Londres. Donc disons qu'un locuteur qui utilise le nom propre Londres a dans son cerveau une certaine représentation mentale sous-jacente qui a un certain nombre de caractéristiques à la fois, qui doit avoir à la fois la fonction d'une représentation phonologique de la structure du son associé au mot Londres et éventuellement du rôle sémantique ou de la valeur sémantique associée à l'usage de ce nom. Donc je répète, M est une représentation mentale sous-jacente à l'usage du nom français, du nom propre français, Londres. En phonologie, les linguistes ne voient aucune utilité scientifique à fournir une définition de la relation externaliste, grand P, de prononciation entre la représentation mentale, grand M, et une catégorie correspondante de bruit ou de son S dans le monde. C'est-à-dire que Chomsky soutient que ça ne viendrait à l'esprit d'aucun chercheur en phonologie de chercher à donner une définition précise d'une relation entre la représentation mentale et une classe de sons qui sont les sons qu'émet quelqu'un qui prononce le nom propre Londres. Bien. Eh bien, par symétrie ou par parité entre la sémantique et la phonologie, Chomsky entend discréditer l'utilité scientifique de la définition d'une relation sémantique externaliste de référence grand R entre la représentation mentale associée au nom propre Londres, et un type d'entité grand E, par exemple, une ville. Comme le dit Chomsky, Je le cite, « Il ne va pas de soi que l'image intuitive d'une relation mot-objet soit plus appropriée en sémantique qu'en phonologie. » Autrement dit, l'analogie minimaliste entre la phonologie et la sémantique pousse Chomsky à substituer une sorte de syntaxe logique à la sémantique vériconditionnelle adoptée par la majorité des philosophes du langage. En réalité, Chomsky admet la thèse straussonienne du philosophe britannique Peter Strawson, selon laquelle la référence est une action intentionnelle et non pas une relation sémantique entre les mots et les choses. Considérez l'exemple 1 sur la feuille que j'ai distribuée, l'exemple 1 en anglais sous la section numéro 3. Cette phrase en anglais, qui est une phrase proposée par Chomsky, est la suivante. « London is so unhappy, ugly and polluted » that it should be destroyed and rebuilt 100 miles away. Donc la ville Londres est tellement malheureuse, laide et polluée qu'on devrait la détruire et la reconstruire à 100 km de distance. Dans l'énoncé de la phrase anglaise 1, en utilisant le nom propre London et le pronom anaphorique it, London is so unhappy, ugly and polluted that it, auquel le nom sert d'antécédent, donc le nom London est l'antécédent de it dans la phrase anglaise, le locuteur fait tantôt référence aux habitants de Londres, dont il dit le locuteur qu'ils sont malheureux, tantôt aux édifices, et non pas aux habitants dont il dit le locuteur qu'ils sont laids, tantôt à un lieu qu'il répute, qui est réputé par le locuteur pollué, tantôt à une ville dont la destruction et la reconstruction hypothétique à une certaine distance sont évoquées. Le but de cet exemple de Chomsky n'est pas d'accréditer un doute idéaliste sur l'existence des entités non linguistiques auxquelles les mots font référence, mais cet exemple suggère plutôt la complexité de la tâche qui consiste à fournir une caractérisation scientifique de la référence des expressions linguistiques des langues naturelles à la lumière du double fait que, d'une part, la référence est une action intentionnelle, c'est-à-dire c'est quelque chose que fait un locuteur en utilisant les phrases de sa langue dans une action par laquelle il communique quelque chose avec un auditeur, et deuxièmement, à la lumière du fait que, deuxièmement, les intentions référentielles du locuteur sont susceptibles de changer au cours d'un simple énoncé, sans pour autant créer la moindre difficulté interprétative pour l'auditeur. Et ce que je veux dire par là, lorsque je dis que les intentions référentielles du locuteur changent au cours du simple énoncé, c'est que, en utilisant le même nom propre London ou le pronom anaphorique auquel ce nom propre London sert d'antécédent, le locuteur fait référence successivement, comme je l'ai dit, à des habitants, des gens, des êtres humains, des édifices qui ne sont pas des êtres humains, un lieu qui n'est ni un édifice ni un être humain, mais qui peut être occupé par des édifices ou par des êtres humains, et à une ville qui est elle-même un ensemble d'édifices, etc. Bien. J'aborde le quatrième point de l'exposé, quatrième point de l'exposé, qui est le troisième point de désaccord entre Chomsky et Fodor, et que j'intitule donc la section numéro 4, le contraste entre le fait que pour Chomsky, le savoir grammatical est un problème scientifique, mais ce que Chomsky nomme l'usage créatif du langage est un mystère plutôt qu'un problème scientifique. Depuis son livre classique de 1965, Aspect de la théorie de la syntaxe, Chomsky a toujours tracé une distinction entre cinq questions fondamentales soulevées par l'étude scientifique de la faculté humaine de langage. Ces cinq questions qui sont sur la feuille sont les suivantes. Première question que j'appelle la question Q1. Quel est le système de connaissances grammaticales grâce auquel un locuteur d'une langue naturelle peut produire et interpréter les phrases de sa langue? Question Q2. Comment ce système de connaissances grammaticales s'est formé dans l'esprit du locuteur au cours de son développement ontogénétique? Troisième question, Q3. Comment la faculté d'acquérir la connaissance de la grammaire d'une langue humaine s'est elle-même développée au cours de l'évolution phylogénétique, l'évolution des espèces par sélection naturelle. Question Q4, comment ce système de connaissances grammaticales est exploité par un locuteur et par un auditeur dans des tâches de production linguistique ou de compréhension linguistique. Et enfin, question Q5, comment ce système de connaissances grammaticales est stocké dans le cerveau du locuteur, disons, quelles sont les régions du cerveau, quelles sont les aires cérébrales qui sont dédiées au stockage, si on veut, de cette compétence grammaticale. Alors, ce qui m'importe, si vous voulez, pour la suite de l'exposé, c'est le contraste principalement entre les questions Q1, Q2 d'un côté et la question Q4, et je n'aborderai pas du tout les questions posées par les questions soulevées par la compréhension de l'évolution, l'apparition de la faculté de langage au cours de l'évolution phylogénétique, ni les problèmes neuroscientifiques que soulève. Enfin, ça, j'en parlerai un tout petit peu à la fin, mais ce qui m'intéresse, c'est le contraste, excusez-moi, entre les questions Q1 et Q2 d'un côté et la question Q4 de l'autre. Dans ses écrits, Chomsky souligne que l'investigation scientifique de la faculté humaine de langage, la grammaire générative, a jeté des lumières sur les questions Q1 et Q2, c'est-à-dire comprendre la structure du système de connaissances grammaticales qui permet à un locuteur de comprendre et de produire un nombre illimité de phrases grammaticales de sa langue, et la question Q2, qui est la question du développement ontogénétique de cette compétence chez l'enfant. Mais en revanche, il pense que la grammaire générative et l'investigation scientifique de la faculté humaine de langage ne permet pas, n'a pas jeté de lumière sur la question Q4, qui est la question de savoir comment ce système de connaissances est exploité dans la compréhension et dans la production. Il soutient en effet qu'il existe un fossé épistémique entre notre compréhension respectivement de ce que c'est un locuteur compétent d'une langue et de ce qu'il fait. Ce qu'il sait, c'est-à-dire sa compétence grammaticale, relève de l'investigation scientifique de la faculté humaine de langage, mais il n'est pas exclu selon lui que ce qu'il fait de cette compétence, l'usage de sa compétence, échappe aux limites de la compréhension scientifique humaine. Il se pourrait, selon Chomsky, que les êtres humains soient privés de la capacité d'une compréhension scientifique de leurs propres actions en général et du comportement verbal en particulier. Ce que Chomsky nomme l'usage créatif du langage humain pourrait donc avoir le statut d'un mystère et non d'un problème scientifique. Depuis sa critique dévastatrice du behaviorisme, Chomsky a admis la thèse néo-cartésienne selon laquelle l'usage normal du langage est un mystère en raison du fait que cet usage n'est pas, je le cite, « n'est pas causalement déterminé par des stimuli externes ou par des états internes », toujours je cite Chomsky, « sans être chaotique puisqu'il est cohérent et approprié aux situations, cet usage créatif du langage n'en est pas pour autant l'effet causal des situations auxquelles il est approprié. Il évoque chez un auditeur des pensées que l'auditeur lui-même aurait pu exprimer de la même manière. » Fin de citation. L'usage normal, créatif du langage est un exemple typique d'un comportement humain volontaire ou intentionnel qui n'est pas simplement produit, causé, engendré par des stimuli externes. Selon la vue néo-cartésienne à laquelle souscrit Chomsky, un comportement humain volontaire se distingue radicalement du comportement de toute entité de l'univers physique dépourvue d'esprit. Selon cette vue néo-cartésienne, il existe un fossé infranchissable entre le comportement volontaire d'une créature pourvue d'un esprit et le comportement d'une machine qui en est dépourvue. Je le cite, « aucun artefact, n'écrit Chomsky, ne peut manifester les propriétés normales de l'usage du langage ». Comme le dit Chomsky encore, les actions humaines intentionnelles sont indéterminées parce qu'elles impliquent, je le cite, des questions de volonté et de choix qui sont elles-mêmes vouées à demeurer un mystère. Les êtres humains sont sans doute incités et poussés à agir, mais comme le fait valoir Chomsky, et je cite un exemple célèbre qu'il donne dans ses Managua Lectures de 1988, si un nazi exige que vous hurliez « Heil Hitler » tout en appliquant le canon de son revolver contre votre tempe, vous n'en demeurez pas moins libre d'exécuter ou non son instruction. Manifestement, la thèse néo-cartésienne admise par Chomsky, selon laquelle les êtres humains sont libres de choisir leurs actions, est incompatible avec la thèse fodorienne inhérente à la conception représentationnelle et computationnelle de l'esprit, selon laquelle le comportement humain intentionnel est conforme à des lois causales psychologiques. Selon Chomsky, les lois psychologiques alléguées par la conception représentationnelle et computationnelle de l'esprit appartiennent aux croyances de la psychologie du sens commun et elles n'ont pas été découvertes par l'investigation scientifique. Mais, en faveur de la conception représentationnelle et computationnelle de l'esprit, on pourrait, je crois, objecter à Chomsky qu'en se réclamant de la thèse néo-cartésienne de la liberté des choix humains, il enfreint ses propres préceptes du naturalisme méthodologique, puisqu'il assujettit une théorie qui, je dois le reconnaître, est proto-scientifique, n'est pas une théorie scientifique mûre, mais néanmoins une théorie proto-scientifique du comportement humain. Il assujettit une théorie proto-scientifique qui a vocation peut-être à devenir une théorie véritablement scientifique, du moins c'est ce que pensent les partisans de la conception computationnelle représentationnelle de l'esprit. Il assujettit, je m'excuse, je reprends ma phrase, il assujettit donc une théorie proto-scientifique du comportement humain à l'autorité d'un concept psychologique du sens commun, un concept de la psychologie naïve, le concept de liberté de la volonté humaine. Donc je veux dire que il me semble que on peut se demander si Chomsky, dans son objection à la conception computationnelle représentationnelle, n'enfreint pas ses propres préceptes du naturalisme méthodologique. Je passe à la cinquième et dernière section de l'exposé que j'ai intitulée « Chomsky et le physicalisme ». J'aborde à présent donc l'attitude de Chomsky vis-à-vis de l'ontologie physicaliste qui est constitutive de toutes les versions du réalisme métaphysique. On aurait pu s'attendre à ce que Chomsky accepte la forme d'argument suivante en faveur du physicalisme. Premièrement, le succès des modèles computationnels de la faculté humaine de langage démontre que certains processus mentaux sous-jacents au traitement du langage sont des processus computationnels. Deuxièmement, les processus computationnels sont des opérations exécutables par des machines obéissant aux lois fondamentales de la physique. Troisièmement, donc, la conclusion, les succès de la grammaire générative, de la modélisation computationnelle de la faculté humaine de langage, corrobore la thèse physicaliste selon laquelle certains processus mentaux humains sont des processus physiques exécutables par une machine physique. D'accord ? Or, on trouve évidemment cet argument chez Fodor, qui le donne très souvent, mais on n'en trouve pas la trace chez Chomsky. Pourquoi ? Pourquoi Chomsky n'accepte-t-il pas l'inférence qui devrait paraître tentante à ses propres yeux, qui va du computationnalisme au physicalisme. Toutes les versions du physicalisme s'opposent au dualisme cartésien entre la substance matérielle étendue et la substance pensante immatérielle et inétendue. À la différence des corps, les esprits sont tenus par Descartes pour immatériels et ne sont pas régis par les principes fondamentaux du mécanisme. Selon Chomsky, la dispute ontologique entre le monisme physicaliste et le dualisme des substances possédait un sens à l'époque de Descartes, lorsque les lois fondamentales de la physique étaient assimilées au principe du mécanisme. Mais les succès de la mécanique newtonienne fondée sur l'introduction de l'attraction universelle, c'est-à-dire d'une force agissant à distance, ont balayé les principes du mécanisme cartésien. Comme le dit Chomsky, je le cite, Newton a éliminé le problème de ce que Gilbert Ryle nommait le fantôme dans la machine en exorcisant non pas l'esprit, mais la machine. Depuis l'avènement de la mécanique newtonienne, c'est vraiment une étape, disons, ancienne de l'histoire de la physique humaine, des théories physiques, de la science physique, les concepts jumeaux de matière et d'objet physique ont été expulsés de la physique théorique et relégués dans la physique naïve. Chomsky lance donc un défi aux partisans du physicalisme. Si le concept exprimé par les mots « objet physique » n'a pas de contenu scientifique assignable, c'est-à-dire n'a pas de contenu dans la physique théorique, alors la controverse ontologique entre le physicalisme et le dualisme des substances, par exemple, n'a elle-même pas de contenu. La plupart des partisans du physicalisme souscrivent à l'une des versions de la thèse ontologique de l'identité entre les entités mentales et les entités physiques. Les uns admettent une version réductionniste de la thèse de l'identité, les autres une version non réductionniste de cette thèse. Une minorité recommande l'élimination des entités mentales. À l'idéal, selon lui, fallacieux de réduction ontologique des entités mentales aux entités physiques, Chomsky oppose le but épistémologique de l'unification ou de l'intégration entre des théories scientifiques distinctes. En particulier, il soutient qu'il convient de rechercher l'unification entre les modèles computationnels de la faculté humaine de langage et les théories neuroscientifiques du fonctionnement du cerveau humain. Mais comme le souligne Chomsky, l'histoire des sciences physiques montre que l'unification entre la théorie chimique des molécules, qui était une théorie de niveau moins fondamental, et la théorie physique des atomes, qui était une théorie de niveau plus fondamental, ne s'est réalisée qu'à la suite de modifications substantielles de la théorie du niveau le plus fondamental, c'est-à-dire de la théorie physique des atomes. L'intégration ou l'unification entre la théorie chimique moléculaire et la théorie physique des atomes n'a été possible que lorsque la théorie physique des atomes a suffisamment évolué pour intégrer la finesse de grain de la théorie moléculaire de la chimique des molécules. Autrement dit, Chomsky suggère que l'unification entre les modèles computationnels de la faculté humaine de langage et les théories neuroscientifiques du fonctionnement du cerveau humain pourrait bien supposer de larges modifications des théories neuroscientifiques du fonctionnement du cerveau plutôt que des modifications des modèles computationnels de la faculté humaine de langage. Le défi lancé par Chomsky au physicalisme soulève au moins trois questions. Premièrement, le but épistémologique de l'unification théorique entre les modèles computationnels de la faculté humaine de langage et les théories neuroscientifiques du fonctionnement du cerveau, ce but épistémologique d'unification théorique est-il complètement indépendant de toute ontologie sous-jacente? Deuxièmement, quelle autorité octroyée respectivement aux théories des neurosciences et aux théories fondamentales de la physique dans l'adjudication des controverses ontologiques provoquées par le développement des sciences cognitives? Troisièmement, quelle autorité octroyer respectivement aux théories scientifiques de la physique et aux conceptions physiques du sens commun dans l'adjudication de ces controverses ontologiques? Le philosophe Jeffrey Poland a baptisé « physicalisme méthodologique » la thèse de Chomsky selon laquelle nous devrions rechercher l'unification épistémologique entre les modèles computationnels de la faculté humaine de langage et les théories neuroscientifiques du fonctionnement du cerveau humain. Le physicalisme méthodologique peut-il lui-même être justifié par des considérations purement épistémologiques ou méthodologiques? Si l'unité ou la simplicité théorique est une vertu, est-ce une vertu purement épistémique ou même une vertu esthétique? On peut en douter parce que le but recherché est d'unifier des théories situées à des niveaux distincts. Or, la notion de niveau est une notion ontologique. On distingue en effet le niveau chimique moins fondamental des molécules du niveau physique plus fondamental des atomes parce que les molécules sont des entités composées d'atomes. Les neurosciences étudient la structure et le fonctionnement des constituants du cerveau humain. Les modèles computationnels offerts en linguistique générative étudient des propriétés dites, je cite en général, « émergentes » du cerveau humain. Chomsky semble, dans des écrits récents, enclin à tenir pour un truisme ou pour une vérité évidente la proposition du chercheur en neurosciences Vernon Mountcastle, qui est un assez célèbre chercheur dans les neurosciences de l'action, selon laquelle, je cite Mountcastle qui est cité par Chomsky, donc il tient pour un truisme cette proposition, un esprit ou les choses mentales en général sont des propriétés émergentes du cerveau humain. Et Chomsky a l'air de dire qu'est-ce que ces choses pourraient-elles être d'autres. Bon, excusez-moi. Mais comme le disait naguère le logicien Kreisel, ce qui est évident n'est pas toujours évident. Le truisme allégué n'en est probablement pas un, puisque d'une part, un partisan du dualisme comme Kripke, un partisan contemporain du dualisme comme Kripke ou Descartes à son époque, rejetterait probablement ce truisme et refuserait de dire qu'un esprit ou les choses mentales en général sont des propriétés émergentes du cerveau humain. Et de surcroît, cette proposition sert précisément à justifier le choix du physicalisme méthodologique en faveur de l'unification épistémique entre les modèles computationnels de la faculté humaine de langage et les théories neuroscientifiques des processus cérébraux. Chomsky paraît donc admettre l'assertion ontologique selon laquelle les capacités cognitives humaines sont des propriétés émergentes du cerveau humain, mais il rejette l'assertion selon laquelle les entités mentales sont des entités physiques. Un adversaire du dualisme ontologique en conclura que c'est une erreur d'assujettir les controverses ontologiques en sciences cognitives à l'autorité des concepts fondamentaux de la physique théorique. Pour un partisan du physicalisme, les propriétés computationnelles de la faculté humaine de langage dépendent de la structure neurologique du cerveau humain, même à supposer que les théories fondamentales de la physique contemporaine sont incomplètes. On peut se demander, il n'y a pas de raison en fait de croire que des révisions, même déchirantes, des théories physiques fondamentales, des particules élémentaires, des forces fondamentales qui gouvernent les interactions entre les particules élémentaires, auront un impact significatif sur notre compréhension scientifique des mécanismes moléculaires impliqués dans la décharge des neurones, dans le transfert d'informations entre neurones et dans le rôle fonctionnel des différentes aires cérébrales. Autrement dit, même si on suppose que les théories de la physique fondamentale sont incomplètes et sont amenées à subir des révisions déchirantes, cela ne va pas de soi de penser que ces révisions déchirantes de la physique fondamentale auront des répercussions sur notre compréhension scientifique du fonctionnement du cerveau. Je conclus. En conclusion, j'aimerais m'interroger sur une tension putative dont je n'ai pas vraiment encore parlé directement dans la pensée de Chomsky. Comme je l'ai dit, l'importance qu'il accorde au style galiléen pour les sciences cognitives indique que Chomsky prend la physique théorique pour modèle de la démarche scientifique dans les sciences cognitives en général et en linguistique théorique en particulier. Adhérer au style galiléen, c'est conjointement souligner l'indispensabilité des idéalisations et de la modélisation dans la démarche scientifique et assigner pour but à la démarche scientifique la découverte de lois et de mécanismes fondamentaux sous-jacents aux phénomènes observables. Il ne fait aucun doute que les conceptions de la physique théorique s'écartent radicalement des croyances du sens commun ou de la physique naïve. En se réclamant du style galiléen, Chomsky est donc conduit à souligner le fossé entre la démarche scientifique en sciences cognitives et les croyances du sens commun ou de la psychologie naïve. Mais comme le reconnaît aussi Chomsky, les sciences cognitives sont de surcroît confrontées à une tâche scientifique sans contrepartie dans la physique théorique et qu'il appelle dans son ouvrage, dans ses ouvrages récents, en particulier dans cet ouvrage de 2000 dont j'ai parlé, New Horizons in the Study of Language and Mind, qu'il appelle l'ethnoscience, l'ethnoscience. La tâche de l'ethnoscience, au sens de Chomsky, est d'offrir une compréhension elle-même scientifique des conceptions du sens commun dans les différents domaines cognitifs, dont la physique naïve, la biologie naïve, la psychologie naïve, l'arithmétique naïve, la géométrie naïve. Et il y a au Collège de France un certain nombre de chercheurs qui s'adonnent finalement à cette tâche, en psychologie ou en neurosciences cognitives, notamment Dehaene, par exemple, étudie ce que j'appelle ici l'arithmétique naïve. Alors, le style galiléen souligne le fossé entre la physique théorique et la physique naïve, c'est-à-dire entre la démarche scientifique et le sens commun, eu égard à la compréhension du monde physique. En un certain sens, la physique théorique et la physique naïve sont en concurrence dans la mesure où elles aspirent toutes les deux à décrire et à expliquer le comportement des objets inanimés à la surface de la Terre. Une démarche scientifique de premier ordre comme la physique théorique, appliquée à un domaine ontologique quelconque, disons le monde inanimé, ou bien par exemple la biologie théorique appliquée à la compréhension scientifique des êtres vivants, est en concurrence. Une telle démarche scientifique de premier ordre, la physique théorique ou la biologie théorique, sont en concurrence avec des conceptions du sens commun dans le même domaine ontologique, par exemple la physique naïve ou la biologie naïve. Mais la démarche ethnoscientifique dont parle Chomsky n'est pas exactement une démarche scientifique de premier ordre au même sens, puisque, si vous voulez, c'est une démarche scientifique qui vise à fournir une compréhension scientifique du sens commun. Non pas, alors, Le sens commun, on pourrait considérer que c'est un aspect du monde, évidemment, mais dans la mesure où le sens commun est une représentation du monde, c'est un aspect du monde qui est un ensemble de représentations du monde. Donc, si vous êtes, je suis en train de dire que donc l'ethnoscience au sens de Chomsky, qui a pour but de fournir une compréhension scientifique du sens commun, a pour but finalement de fournir une compréhension scientifique des représentations mentales que forment les êtres humains dans les différents domaines ontologiques que sont la physique, la biologie, etc. En ce sens, donc, l'investigation ethno-scientifique, par exemple, de la physique naïve, est peut-être en concurrence avec la psychologie naïve, mais contrairement à la physique théorique, elle n'est pas en concurrence avec la physique naïve. Contrairement à la physique naïve, l'investigation ethno-scientifique de la physique naïve ne prétend pas décrire et expliquer le comportement des objets inanimés. Elle vise à fournir une compréhension scientifique des mécanismes cognitifs par lesquels les êtres humains créent leur représentation mentale naïve du monde physique. Donc la question par laquelle j'aimerais terminer mon exposé est la suivante. La physique théorique peut-elle et devrait-elle servir de modèle à l'investigation ethno-scientifique des mécanismes cognitifs grâce auxquels les êtres humains créent leur représentation mentale naïve du monde? Voilà ma question. Merci beaucoup, je m'arrête.
Je remercie Pierre Jacob pour tout ce qu'il nous a appris et qui soulève beaucoup de questions passionnantes dont nous allons, je l'espère, pouvoir discuter. Si je peux me permettre, pour lancer la discussion, de faire quelques suggestions. Une des choses évidemment les plus étonnantes dans le cas de Chomsky, c'est l'opiniâtreté avec laquelle il adhère au modèle de la science galiléenne. Ça m'a frappé depuis le début, puisqu'il n'a jamais changé d'avis là-dessus. Il a toujours soutenu que la linguistique, par exemple, devait être une science galiléenne, et que la linguistique est devenue véritablement une science le jour où elle s'est décidée à adopter résolument le modèle galiléen, avec évidemment ce que ça implique et que tu as souligné, c'est-à-dire le fait que il s'agit d'une science donc qui construit des modèles mathématiques abstraits qui sont censés, auxquels est censé correspondre une réalité plus réelle que celle des objets auxquels est confronté le sens commun. Et la question par laquelle tu as terminé est évidemment celle qui consiste à s'interroger d'abord sur la pertinence du modèle galiléen en général quand il s'agit des sciences de l'esprit, des sciences humaines en général. C'est déjà une question en soi. Donc ce refus obstiné de toute espèce de dualisme sur ce point chez Chomsky, il n'y a réellement qu'un modèle de science. Et puis il y a la question qui est liée directement à celle-là, c'est-à-dire est-ce que la physique théorique, comme tu l'as exprimé à la fin, est réellement le modèle qui convient d'utiliser pour comprendre la façon dont nous en arrivons à construire les représentations qui appartiennent au sens commun. Si je me souviens bien, Jean-Claude Milner a défendu dans Introduction à une science du langage la même conception galiléenne, je crois encore accentuée, hein, puisqu'il soutient ouvertement, si mes souvenirs sont bons, que la linguistique formulée en termes de règles pourrait être reformulée entièrement en termes de lois, hein, c'est-à-dire rendue compatible avec... on pourrait lui conférer un modèle de... un mode d'expression qui serait complètement galiléen, ce dont je doute personnellement totalement. Hein, c'est pour ça que j'évoque ce problème. J'ai des doutes sérieux en ce qui concerne l'acceptabilité de la position de Milner et déjà en ce qui concerne celle de Chomsky. Alors, parmi les questions que je me suis posées, il y en a une que tu as effleurée à différents moments mais que tu n'as pas vraiment posée, c'est quels sont exactement les rapports de Chomsky avec la philosophie ? C'est-à-dire, si on adopte sa conception, ou les différentes conceptions qu'on peut lui imputer, que tu as examinées, qu'est-ce que font les philosophes ? À quoi ils servent ? Et quelles méthodes doivent-ils être utilisées pour mériter d'être pris au sérieux ? Tu vois pourquoi je te pose cette question. Elle est du reste liée un peu à une autre question fascinante que tu as évoquée, c'est le point sur lequel Chomsky est pour le coup carrément dualiste, c'est-à-dire il considère que le savoir grammatical, c'est-à-dire la reconstruction, Carnap dirait la reconstruction rationnelle, de ce que nous savons quand nous savons un langage, la reconstruction donc de ce type de connaissance est une entreprise qui peut être menée de façon scientifique. En revanche, il n'y a que peu ou pas du tout d'espoir de réussir à transformer en objet scientifique une interrogation sur ce qu'il appelle l'usage créatif du langage. Alors, ça, il y a une tentation qui est de dire ça, les philosophes ont qu'à s'en occuper, hein, puisque c'est un mystère et que c'est leur objet favori. Bon, alors le problème, c'est comment il faut interpréter cette conviction de Chomsky. Tu en sais manifestement beaucoup plus que moi là-dessus, parce que moi, je n'ai pas encore lu le livre que tu as évoqué à différentes reprises, New Horizons. Quel est l'éditeur qui a publié
Cambridge. Cambridge University.
D'accord. Bon, il faudra que je lise.
En fait, c'est un recueil d'articles. Donc, oui. Tu as dû lire les articles. Tu as pu en lire. Oui, Ce n'est pas un livre entièrement nouveau. Enfin,
alors là, il y a quelque chose qui m'intrigue, si tu veux, fortement. Hein. Est-ce qu'on peut se satisfaire avant de cette position dualiste qui consiste à dire, en ce qui concerne la possibilité de caractériser scientifiquement ce que nous appelons la connaissance du langage. Bon, on a fait des progrès considérables, on en fera encore, mais il faut accepter l'espèce de mystère que représente l'usage créatif du langage, et ça me semble lié, que représente la question de l'usage créatif du langage, ça me semble lié évidemment à ce qu'on peut appeler le néo-cartésianisme de Chomsky, qui est assez paradoxal, parce que dans l'impression que c'est un néo-cartésianisme non-dualiste. Mm-hmm. C'est-à-dire, il est néo-cartésien parce qu'il pense que l'esprit a des propriétés qui sont probablement condamnées à rester mystérieuses. Mm-hmm. Hein, quand il dit, par exemple, tu as à un moment donné exprimé sa position en disant « Aucun artefact ne peut posséder des propriétés capables de... » Je ne sais pas s'il faut dire de posséder ou de simuler les propriétés que... possède l'utilisateur du langage. Est-ce que ça n'implique pas une forme de dualisme? Parce qu'après tout, là, il y a une façon assez naturelle de répondre au problème que ça pose, qui est de dire, ben certes, nous sommes composés de deux constituants, comme disait Descartes, la matière qui a ses propriétés, et ça, la science peut s'en occuper, et puis il y a l'esprit, hein, si on veut comprendre quelque chose à ce qui s'y passe, il faut appliquer des méthodes fondamentalement différentes. Alors, quelle est la tendance de Chomsky? Est-ce que c'est de dire qu'il faut effectivement être prêt à utiliser des méthodes différentes, ou bien il vaut mieux ne rien en dire, parce que, pour la raison que ce qu'on pourrait en dire, évidemment, ne correspond ni de près ni de loin aux exigences d'une science comprise de façon galiléenne. Voilà, enfin, ce sont... Tu as évoqué aussi ce problème du concept de liberté. Alors, j'ai l'impression qu'il dit tout à fait explicitement que la liberté est un mystère. Oui. Hein, il me semble qu'il dit que c'est... C'est le genre de choses que nous ne pouvons pas espérer avoir un jour une compréhension, hein, surtout pas une compréhension scientifique. Alors, je voudrais savoir un peu comment tu as réagi, toi, depuis le début, Moi, je suis Chomsky depuis très longtemps, j'aimerais savoir où tu en es aujourd'hui dans tes réactions à l'égard de ce qu'il écrit. J'ai été très intrigué par le... c'est dans l'article qui s'intitule « Nature and Mind » je suis tout à fait sûr du titre, où il invoque l'argument newtonien, hein, où il dit... au fond, on ne sait plus très bien quelle est la différence entre la matière et l'esprit. En quoi consiste la différence entre la matière et l'esprit? Parce que, ou entre ce qui constitue une propriété physique et une propriété spirituelle. Parce qu'à partir de ce moment, Newton a effectué une révolution qui a contraint les physiciens à accepter comme une propriété physique honorable l'attraction. Hein, il a l'air de penser que... Parce que de ce moment-là, la distinction à laquelle on tenait particulièrement entre matière, esprit, propriété physique, propriété spirituelle est devenue à peu de choses près inutilisable. Alors je me demande si ça m'a passablement déconcerté et même un peu choqué, surtout qu'il lui arrive de dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une propriété physique? C'est ce que les physiciens dans l'avenir seront amenés à reconnaître comme tel. Donc on ne sait pas ce que c'est qu'une propriété physique. Si les physiciens de la génération suivante, ou dans deux ou trois générations, se remettent à penser un peu comme les créateurs de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'au fond, la nature se comporte assez fréquemment comme un esprit, et que par conséquent, on peut très bien considérer comme des propriétés physiques acceptables, des caractéristiques qui semblaient jusqu'à présent réservées à un esprit, ben on dira oui, c'est des propriétés physiques. Alors, bon, je trouve ça un peu choquant de la part de quelqu'un qui, comme tu l'as rappelé, a vraiment une tendance très nette depuis le début à utiliser la physique théorique, comprise dans un sens, me semble-t-il, quand même assez classique, c'est-à-dire au sens galiléen, comme modèle pour la science en général. Voilà, je te prie de m'excuser d'avoir été un peu long.
Je sais, comme tu as effectivement soulevé beaucoup de points, je ne sais pas très bien lesquels, je ne peux pas répondre à tout. Disons, je pense que c'est très intéressant de réfléchir à l'importance que Chomsky accorde au style galiléen dans l'étude du langage et de l'esprit, qui manifeste évidemment, clairement, je crois, comme tu le dis, et là on est tout à fait d'accord, que pour lui, le modèle d'une explication scientifique et de la démarche scientifique dans l'étude du langage et de l'esprit humain, c'est la physique théorique. C'est intéressant, une fois qu'on a bien pris conscience de l'importance que joue la physique théorique dans sa conception de ce qu'est une explication scientifique, s'interroger sur ce qu'il écrit sur les tentatives d'étudier l'origine du langage du point de vue évolutif. Et là, il me semble que lorsqu'il critique en particulier les tentatives pour trouver les facteurs adaptatifs qui ont pu contribuer à, qui pourraient contribuer à faire comprendre l'apparition même de la faculté humaine de langage dans l'évolution d'Homo sapiens, je trouve qu'on s'aperçoit qu'il exprime une sorte de très fort scepticisme sur l'invocation, ce qui paraît être pour lui une invocation rituelle de la sélection naturelle ou du caractère adaptatif d'un trait, lorsque on ignore les contraintes physiques, les lois physiques qui gouvernent, qui limitent l'opération de la sélection naturelle. Autrement dit, une partie des réserves que semble exprimer Chomsky à l'égard des spéculations ou des études, des investigations sur les origines phylogénétiques de la faculté humaine de langage me semble aussi être reflété un scepticisme à l'égard la théorie de l'évolution par sélection qui invoquerait le rôle de la sélection tout en ignorant les contraintes physiques, c'est-à-dire les lois physiques qui contraignent le mécanisme de la sélection. Et pour lui, je pense que, au fond, son propre scepticisme sur les spéculations en matière de recherche sur l'évolution du langage, finalement, trahissent ou reflètent, une fois encore, le rôle fondamental qu'il accorde aux théories physiques et à la connaissance des lois physiques dans une explication scientifique. Donc ça, c'est une première chose. Disons, en ce qui concerne le soupçon du dualisme ontologique qui semble se manifester dans son diagnostic que, en ce qui concerne la compétence grammaticale, nous avons maintenant, nous sommes sur le pas d'une compréhension scientifique. Et en ce qui concerne l'usage créatif, probablement nous avons affaire à un mystère et qui n'est autre que le mystère de la liberté humaine, de la liberté de la volonté humaine. Disons que je pense que lui dirait que cette dualité entre le fait que la compétence grammaticale est un problème, l'usage créatif est un mystère, ne doit pas être interprété comme le fait d'adhérer ou de souscrire au dualisme ontologique, parce que, pour les raisons que tu as dites précédemment, comme nous ne disposons pas d'une définition satisfaisante de ce qu'est un objet physique, la controverse entre l'ontologie physicaliste et le dualisme des substances est simplement dénuée de sens. Donc au fond, je pense qu'il faut, réfléchir, enfin, c'est une des choses sur lesquelles j'essaye de réfléchir à la fin de l'article, de l'exposé. Je pense que le problème, il y a une version, disons, d'une interprétation ontologique des recherches menées en linguistique par Chomsky et les linguistes quand ils font une modélisation de la faculté humaine de langage qui consiste à dire étudier le langage humain, ça n'est rien d'autre que d'étudier le cerveau, et dire cela, c'est faire une assertion ontologique. Je pense que Chomsky n'aime pas cette interprétation ontologique ou métaphysique de la modélisation computationnelle qu'il effectue sur le langage, précisément parce qu'il veut que ce soit la physique théorique qui arbitre les discussions ontologiques. Maintenant, il me semble que, et c'est ce que je suggère dans mon exposé, je pense que peut-être que devant les arguments de Chomsky, ce qu'un partisan d'une ontologie physicaliste, et en particulier de l'interprétation physicaliste de ses propres travaux, c'est-à-dire il offre une caractérisation computationnelle de certaines capacités du cerveau humain, ce que doit faire un partisan du physicalisme, d'une ontologie physicaliste, c'est de refuser que ce soit la physique théorique qui arbitre les controverses ontologiques. C'est-à-dire que le problème n'est pas de faire le lien entre les travaux linguistiques et la physique théorique, puisque, comme le montre le fait qu'il accepte l'idéal d'unification épistémologique entre la modélisation computationnelle et les théories neuroscientifiques du cerveau, la question ontologique, c'est de voir quel sens cela a de dire que lorsqu'on étudie la faculté humaine de langage comme il le fait, on étudie une certaine capacité du cerveau humain. Et dire cela, ça n'est effectivement pas octroyer à la physique théorique une autorité pour assigner une interprétation physicaliste à la recherche linguistique. L'arbitre, si je peux dire, c'est le développement des connaissances neuroscientifiques, c'est pas le développement de la physique des particules. En ce qui concerne la tâche des philosophes, je pense que Chomsky est extrêmement sévère. Je pense que, on ne peut pas ne pas être frappé en lisant Chomsky depuis qu'il a écrit des textes non purement linguistiques, mais des textes qui visent à situer l'entreprise linguistique dans un cadre plus général, par son extrême sévérité à l'égard de la philosophie contemporaine, de l'égard de la philosophie qui lui est contemporaine. Il a été l'élève de Goodman, il a côtoyé Quine, et manifestement, il considère que ce sont des gens intelligents, mais il est clair qu'il considère que la philosophie classique du XVIIe et du XVIIIe siècle était beaucoup plus profonde que n'est devenue la philosophie analytique au cours du XXe siècle. Je pense, par exemple, puisque moi, ça c'est une question qui me parle, qui me touche d'assez près, que l'importance reconnue par les philosophes de l'esprit à l'introduction par Brentano de l'intentionnalité en philosophie, pour Chomsky, toutes les distinctions subtiles auxquelles ont donné lieu la définition brentanienne de l'intentionnalité, la discussion de la thèse de Brentano sur laquelle l'intentionnalité est la marque ou le critère du mental ou des phénomènes psychologiques, toutes ces discussions n'ont aucun rapport avec une démarche scientifique. Je pense que le diagnostic très sévère de Chomsky, c'est que quelle que soit, l'ingéniosité qu'ont pu manifester les philosophes lorsqu'ils ont réfléchi aux difficultés d'application du concept d'intentionnalité, ils n'ont en aucun cas fait progresser une compréhension scientifique de l'esprit humain. Or, son but, c'est de faire progresser une compréhension scientifique de l'esprit humain dans le style galiléen. Alors, tu m'interroges sur qu'est-ce que je pense, maintenant, alors, disons, des contributions de Chomsky. En un certain sens, je pense qu'il y a, enfin, c'est mon, je ne suis pas linguiste, mais disons, ma lecture de son œuvre m'amène plutôt à penser que, son utilisation des outils formels qui avait été préparé par la logique mathématique, la théorie des langages formels au cours du XXe siècle, l'a conduit à faire un pas scientifique dans la compréhension de la nature des grammaires, des langues naturelles, que personne avant lui n'avait fait. Enfin, je pense que il était préparé à utiliser les instruments formels pour préciser la notion de grammaire et la portée des processus grammaticaux des langues naturel, et je pense qu'il a fait faire à la linguistique un pas scientifique considérable. D'une certaine manière, c'est vrai que c'est la formalisation mathématique, c'est vraiment la modélisation mathématique qui lui a permis de faire ce pas. Et en un certain sens, je serais enclin à penser que son travail scientifique corrobore son diagnostic que le style galiléen est un idéal à rechercher dans le domaine de l'étude du langage. Mais je ne suis pas sûr que, disons, le pas qu'il a fait faire à la linguistique est un pas qu'on peut généraliser à tous les domaines dans l'étude de la cognition en général. C'est-à-dire, je ne suis pas certain que ce qui fait la grandeur de son œuvre représente un modèle pour l'ensemble des recherches à mener dans le domaine des sciences cognitives, dans la compréhension de l'esprit humain. Et en particulier, je parlais tout à l'heure de son scepticisme à l'égard, l'invocation de quelque chose comme la sélection naturelle pour comprendre l'évolution d'un trait lorsqu'on ignore les contraintes physiques à l'intérieur desquelles opère la sélection naturelle, je pense qu'il est possible que, finalement, en plaçant la barre à un niveau mathématique aussi élevé qu'il la place, je ne suis pas certain que le modèle dans la recherche en sciences cognitives qu'incarne son œuvre, en particulier des années 50, soit le modèle pour l'ensemble des disciplines qui essayent de comprendre la mémoire, la perception. Je pense que quand on étudie... Il y a une parenté entre, disons, son point de vue sur le langage et le point de vue de David Marr, par exemple, qui a essayé de proposer des modèles computationnels de la vision. Mais je ne suis pas absolument certain que cette démarche-là soit le paradigme que doivent suivre les sciences cognitives en général.
Oui, je pense que tu as raison sur un point crucial qui est que Chomsky, c'est quelqu'un qui pense qu'au fond, on sait réellement très peu de choses,
oui,
et on peut et on doit se résigner à ignorer une quantité énorme de choses.
Oui.
Et c'est pour ça qu'au fond,
c'est vrai.
Ça ne le gêne pas tellement de
non,
parler
du
mystère, parce que je pense qu'il accepte le principe ignorabimus, quoi. C'est-à-dire il y a des limites. Oui, c'est ça. Il se pourrait que nous soyons constitués d'une manière telle, peut-être sous l'effet de l'évolution, pour le coup, qu'il y a des questions que nous n'arriverons jamais à résoudre, ni même peut-être à formuler clairement.
Oui, absolument. Je pense.
Et alors, du coup, ça explique la façon dont il juge la philosophie, au fond. Compte tenu de ce que tu as dit, qui est tout à fait vrai, que ce qui compte pour lui, c'est dans quelle mesure une discipline comme la philosophie s'est-elle montrée capable de contribuer à accroître notre compréhension scientifique de ce dont elle traite.
Exactement.
Que ce soit l'esprit ou autre chose. Et là, il est certain qu'il pense que les grands philosophes classiques, c'est-à-dire Descartes, Leibniz,
on fait beaucoup plus.
On fait plus, nettement plus.
Que les philosophes contemporains.
Ça me paraît clair.
Ça, c'est clair, absolument. Oui.
Je suis pas sûr.
C'est frappant à quel point, même si lui, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, considérant que depuis que, disons, la mécanique newtonienne a balayé les principes du mécanisme cartésien, depuis ce moment-là, le problème classique des rapports esprit-corps ne se pose pas de manière sensée. Néanmoins, il est clair qu'il considère qu'en épousant le dualisme ontologique, c'est-à-dire à une époque où Descartes assimilait les lois physiques au mécanisme, le dualisme ontologique était une conclusion rationnelle que tirait Descartes. C'est-à-dire, lui ne veut pas reprendre à son compte, lui, Chomsky, le dualisme ontologique, puisqu'il considère que le problème ne peut plus se poser depuis que Newton a balayé le mécanisme, mais il considère que pour quelqu'un comme Descartes, qui assimilait les lois de la physique au mécanisme, il était rationnel d'être un dualisme ontologique, de souscrire au dualisme ontologique, c'est-à-dire de considérer que les principes du mécanisme ne peuvent absolument pas éclairer le fonctionnement de l'esprit humain.
Alors, c'est ce qui est un peu étonnant, quand même, du point de vue de l'histoire des sciences, c'est cette façon de décréter qu'un mécanisme qui n'est plus le mécanisme cartésien n'est plus du tout un mécanisme.
C'est vrai.
Il y a eu de nombreuses versions du mécanisme après Newton.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'il irait jusqu'à dire qu'on a tort d'appeler ça du mécanisme? J'ai peur que oui. Enfin, je ne sais pas. Je me pose la question.
Disons que... je pense que si on veut qualifier un algorithme de mécanisme, on veut dire qu'un algorithme capable d'exécuter une certaine opération formelle, disons, pas à pas, c'est une version du mécanisme. Je pense qu'il serait, mais je pense qu'il voulait dire le mécanisme au sens cartésien, c'est l'idée que toute interaction causale est obéie à des interactions par contact. Exactement. Donc l'idée qu'un algorithme qui peut résoudre un problème pas à pas est un mécanisme, ce serait un mécanisme dans un sens qui n'a rien à voir avec des interactions causales obéissant au principe cartésien du contact, qu'il ne peut pas y avoir d'interaction causale sans collision, disons, à distance. Et donc je pense qu'il dirait probablement qu'il y a une sorte d'ambiguïté, que le mot mécanisme est ambigu entre l'acception cartésienne qui régit les interactions causales, et l'idée mathématique d'un algorithme qui peut résoudre, traiter un problème par une méthode pas à pas, par un ensemble fini d'étapes. Je pense, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, tu, là, c'est plutôt. Après, c'est plutôt
je crois. Boltzmann, si tu veux, était un défenseur farouche du mécanisme. Oui, il ne semble pas avoir douté un seul instant que ce qu'il appelait le mécanisme méritait bien d'être appelé le mécanisme.
Et ce n'est pas au sens d'un algorithme, c'est au sens, c'est un sens beaucoup plus physique. Enfin,
oui, je pense. Mmh. Oui. Donc là, je me pose la question de la manière dont il. Enfin, disons, il a une certaine tendance historiciste, me semble-t-il. Il a une tendance à dire, au fond, ce qu'on peut appeler une propriété physique ou un objet physique. C'est ce que la physique du moment appelle de ce nom. Oui. Et ça peut devenir quelque chose de très différent de ce qu'on fait maintenant. Oui. À la limite, un beau jour, la physique pourrait accepter des propriétés bien plus étranges que la physique. Il pense ça. Ben, peut-être le fera-t-elle, d'ailleurs.
Enfin, je pense qu'il veut introduire le doute sur la confiance qu'ont les philosophes qui souscrivent au physicalisme, à l'ontologie physicaliste, qu'ils savent exactement ce dont ils parlent eux-mêmes.
Là, je ne peux pas lui donner complètement tort. Donc, beaucoup de... j'ai contribué à... J'ai écrit une préface pour un livre qui était consacré à une défense du matérialisme. Et j'avoue que, en l'écrivant, j'étais complètement perplexe parce que très souvent, je me disais, mais au fond, de quoi qu'est-ce qu'on défend exactement quand on défend aujourd'hui le matérialisme. Mais ça, là, Chomsky a raison, c'est un problème.
Oui, c'est un garde-fou, je crois.
Oui, c'est un problème on ne peut plus sérieux, ça c'est sûr. Oui. Mais lui, il est convaincu qu'au fond, que la science a cessé d'être matérialiste à partir d'un certain moment, non pas en ce sens qu'elle aurait opté forcément pour l'esprit, mais parce que l'évolution de la science elle-même a fait que la distinction est devenue impossible à faire.
Oui, exactement.
C'est comme ça.
Oui, je crois que tu as raison,
Bon, mais je suppose que vous avez des questions à poser à Pierre Jacob. Il ne faut pas que je monopolise. Oui, Aude.
Alors, c'est une question un petit peu
naïve.
À propos de votre troisième point sur le matérialisme, vous avez mis en évidence, c'est que le fait que Chomsky défend une conception de l'intentionnalité de non-relationnel. Alors, je me demande pour Chomsky, de manière peut-être plus générale, comment est-ce que vous défendez. Sans nécessairement souscrire à une doctrine relationnelle.
On ne peut pas.
C'est le problème de Roland Tannon, en fait.
Bien sûr.
Il dit que c'est une quasi-relation, il remet que ce soit une relation, mais il n'arrive pas
à ce point. Non. Disons que je pense, en étant fidèle à la pensée de Chomsky, que Chomsky refuse tout simplement de se poser ce problème qu'il considère comme un problème métaphysique. Chomsky n'est pas prêt à défendre, à accepter une conception représentationnelle de l'esprit ou une conception computationnelle et représentationnelle de l'esprit à la façon dont Fodor... Et donc, quand des philosophes comme Fodor, et d'ailleurs, je vous invite pour clarifier la chose, lisez la controverse entre le philosophe Georges Rey, R-E-Y, et la réponse que lui fait Chomsky dans un ouvrage de 2003 qui s'appelle Chomsky and his Critics, où Rey, disons, tout à fait dans la ligne de la conception fodorienne de la conception fodorienne computationnelle représentationnelle, essaye de forcer Chomsky à dire, mais il n'y a pas de conception computationnelle et il n'y a pas d'usage de la computation qui ne suppose pas l'existence de représentation. Parce qu'il faut des symboles et des représentations qui sont manipulés, transformés par les computations. Et si vous adoptez une conception computationnelle, vous êtes forcé de reconnaître l'existence de représentations. Si vous acceptez les représentations, vous êtes forcé de vous poser la question du contenu de ces représentations et d'avoir une conception, une théorie de ces contenus. Et Chomsky dit simplement, non, je ne reprends pas à mon compte. Vous êtes sous l'emprise d'une conception philosophique traditionnelle proposé par Brentano, c'est votre affaire, mais moi, personnellement, je ne me sens pas redevable, je ne vous dois pas une théorie du contenu des représentations, parce que je n'accepte pas le défi que a lancé Brentano lorsqu'il a soulevé toutes les perplexités, les questions que soulève la notion d'objet visé par l'intentionnalité qui existe dans l'esprit ou qui n'existe pas, etc. Il dit, ça sont des questions typiques de philosophes qui, moi, ne m'intéressent pas. Et je ne me sens pas tenu de fournir une théorie du contenu des représentations, parce que je ne considère pas qu'une théorie ou un modèle computationnel doit fournir une conception métaphysique des représentations sur lesquelles opèrent les computations. Et je crois que et c'est ce que j'appelle une conception non relationnelle des représentations, c'est-à-dire simplement, disons, des étapes dans la computation sans que le scientifique, le linguiste ou le chercheur en sciences cognitives soit tenu d'offrir une théorie de l'intentionnalité de ces représentations. Oui, je crois que monsieur...
Oui, allez-y.
Pardon.
Oui.
Vous avez souligné tout au long de votre exposé l'importance pour Fodor Dostoïevski qu'ils attachent à la physique théorique.
Oui.
Mais